following is a previously broadcast program.
CKUT Radio.
Radio.
Southwest sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada.
CKUT.
Un message du gouvernement du Québec.
Écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway.
Au programme. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sur CKIA 88.3 FM. Je m'appelle Mbayaji, je suis avec vous jusqu'à 20h en compagnie de Brice, mon fidèle metteur en onde. Salut Brice, tu es dans la technique, fait que je te salue de loin. Alors au menu aujourd'hui, nous allons parler du recours collectif au fédéral contre le gouvernement du Québec. J'ai intitulé cette partie « Quand les babines ne suivent pas les bottines, le racisme systémique au sein de la fonction publique fédérale, malgré les beaux discours du Premier ministre Justin Trudeau ». Alors il y a un collectif de 800 travailleurs fonctionnaires noirs qui a introduit un collectif en décembre dernier contre le gouvernement fédéral pour racisme systémique. Je recevrai tantôt Mme Betty Bernadette pour en parler. Mais avant cette entrevue, aujourd'hui, nous retrouvons la chronique littéraire de Oumou. D'ici là, je vous invite à vous connecter sur notre page Facebook, Dignité Noire-CKIA FM. Vous pouvez aussi nous suivre en direct sur notre site web www.ckifm.org. Si vous manquez nos émissions, ce n'est pas grave, elles sont toutes archivées en balado sur ckifm.org. Alors, Oumu, bonsoir.
Bonsoir, Mike.
Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de... C'est la journée des... nationale des peuples autochtones.
Exact.
Le 21 octobre.
Juin.
Ah, mais je suis déjà en octobre. Heureusement que tu es là. 21 juin, c'est la journée nationale des autochtones. Alors, il y a l'événement Koué dont on a parlé ici il y a deux ou trois semaines qui se déroule actuellement sur, à la place Bolivaux, là, à la place Béliveau, vers le Colisée. Là. Fait que tout le monde est invité à y aller. Je pense que ça a commencé vendredi passé jusqu'au 4 juillet. Fait que les gens ont le temps d'y aller. Alors moi, j'invite les gens massivement à aller découvrir les 11 nations autochtones. Ça, c'est un bel événement. Aujourd'hui, à 20h, il y a aussi un concert à Radio-Canada. Un concert, je pense qu'il y a plusieurs artistes de Samian, Dominique Fils-Aimé. Il y a plusieurs artistes là qui tiennent un concert à l'occasion de cette journée nationale des autochtones. C'est à 20h à Radio-Canada. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés peuvent y aller. Moi, je vais aller. C'est sûr que nous, on va rater un petit bout là, puisque on finit notre émission à 20h. Donc, voilà, tout le monde est invité et à aller suivre cette fête nationale, c'est une fête nationale. Bah, j'aimerais t'entendre là-dessus, là. Oumu. Aujourd'hui, il y a des communautés autochtones qui ont demandé de rendre la fête 21 juin fériée. Fête oui. autochtone fériée. Et puis le Premier ministre a refusé. Bah, Monsieur Legault a refusé. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, justement, j'avais prévu d'en parler après la présentation de ma chronique.
Ah, donc on va en parler après.
On Parfait. Va en parler.
Bah, alors, je garde le point pour après.
Super.
Donc, on va en parler. Moi, j'ai vu ça tantôt. J'ai dit, my God.
Ouais, bah, en fait, je vais parler de la chronique et puis après, je vais aussi parler un tout petit peu de l'actualité. Donc, on pourra rebondir dessus.
Parfait. Alors, on va en parler tantôt. Mais avant ça, je vais aussi faire une petite annonce là. La semaine passée, nous avons vu qu'il y avait un cas de noyade d'un enfant là. Mm-hmm. Il s'appelle Daniel Allo. C'était le jeudi 17 dernier. Le petit Daniel Allo a tragiquement perdu la vie dans un lac à la base de plein air de Sainte-Foy à Québec. Cet accident qui n'aura jamais dû arriver s'est produit pendant une sortie scolaire organisée par son école. Sa famille a immigré au Québec en 2019. Ainsi, c'était une famille ivoirienne qui a immigré ici. Personne ne peut envisager, imaginer une telle chose. Donc sa famille ainsi que toute la communauté ivoirienne de Québec est très ébranlée. L'Association des Ivoiriens de Québec a lancé un socio-financement afin de soutenir cette famille-là. C'est l'AMIC, donc l'Amicale Ivoiro-Canadienne de Québec, lance cette collecte de fonds qui sera entièrement versée à la famille afin de le soutenir et que tous ceux qui puissent manifester leur solidarité, leur soutien puissent le faire. Il n'est jamais évident de perdre un être cher, encore moins un enfant. Alors, nous avons posté le lien du socio-financement sur la page Facebook de Dignité Noire-CKIFM. Ceux qui le peuvent ou le veulent peuvent aller donner 5$, 10$, 20$ pour soutenir cette jeune famille immigrante qui est arrivée il y a 2 ans à Québec et qui vient de perdre son fils de 10 ans le 17 juin dernier lors d'une sortie scolaire à la base de plein air de Sainte-Foy.
C'est tragique.
Ah oui, tellement tragique, ça fait mal. Le petit Daniel Allo n'avait que 10 ans. Très triste. Nos pensées vont à cette famille. Alors voilà, c'est ça l'annonce malheureuse de ce début d'émission. Alors c'est aussi en même temps une occasion de générosité à l'égard de cette famille. Alors Oumu, aujourd'hui dans ta chronique littéraire, tu nous parles de Chouni, le dernier ouvrage de Naomi Fontaine.
Oui.
Alors
donc,
on t'écoute.
Alors ce livre est paru en 2019 aux éditions Mémoire d'Encrier. Alors la question que je pose à chaque fois maintenant, c'est pourquoi j'ai choisi ce livre? J'ai choisi ce livre car nous sommes le 21 juin. Comme tu l'as dit, Mbaye, le 21 juin, c'est la journée nationale des peuples autochtones. Et en juin, on commémore aussi le mois national de l'histoire autochtone pour reconnaître l'histoire, les traditions et la diversité des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Concernant le livre que j'ai choisi, déjà, je voudrais dire que Naomi Fontaine, c'est une écrivaine inoue et elle est aussi enseignante. Elle a publié plusieurs romans. Chouni, ça veut dire Julie en fait, et dans ce roman, elle écrit une lettre à son amie Julie et elle lui fait part de ses nombreuses interrogations. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'elle traite de différents sujets, le racisme, les conditions des autochtones, les réserves, le colonialisme, l'impérialisme, mais aussi comment on doit s'y prendre si on veut aider le peuple autochtone. Son amie Julie a vécu pendant son enfance dans une réserve, donc elle a vécu un peu avec Naomi. Et elle a ensuite décidé de repartir dans les réserves pour les aider. À ce propos, Naomi dit que même si on a de bonnes intentions, il faut toujours commencer par connaître les autochtones, leur histoire, leurs identités et leurs idéaux. Lorsque des personnes viennent aider les communautés dans le besoin, c'est bien, mais la plupart du temps, c'est la même chose qui se produit, c'est-à-dire une image désastreuse des Premières Nations. Si on veut vraiment les aider, on doit se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, et c'est eux qui nous donneront la réponse. Elle évoque aussi la colonisation, en expliquant ce que ça fait d'être colonisé dans son propre pays. Un exemple qu'elle donne, c'est que son grand-père lui parlait en français. Donc, selon Naomi, ça, c'est vraiment un exemple de ce que ça veut dire être colonisé. C'est aussi douter de sa valeur et de sa culture. Dans son livre, elle parle énormément de statistiques. Lorsqu'elle était enfant, on lui a dit qu'elle avait très peu de chances d'obtenir un diplôme d'études secondaires parce que les statistiques prédisaient son échec. Donc, elle a tout fait pour ne pas rentrer dans les statistiques. Concernant la toxicomanie aussi, c'était pareil. Ils ont, dans les statistiques, en fait, ils attestent que les personnes autochtones sont des personnes, la plupart du temps, dépendantes. Les statistiques aussi montrent que c'est le peuple le plus à risque de s'enlever la vie. Donc, elle pose la question à son amie, comment s'en défaire. Et dans le livre, en fait, il n'y a pas de réponse à cette question. Elle fait aussi des références à Capesh. Donc, le premier livre, c'est un livre que j'ai lu aussi en 2021, où j'ai vraiment beaucoup appris. Donc, Anne Antane Capesh a écrit « Je suis une maudite sauvagesse ». Ce livre a été publié pour la première fois en 1976, puis a été réédité grâce à Naomi Fontaine. C'est le premier livre de sa nation qui raconte le refus d'une femme de se résigner. Anne Antane Capesh est une femme Innu qui dénonce tout ce que les Blancs ont fait subir à sa communauté. Comment ils ont fait pour essayer de les éduquer, et ce, sans jamais rien de leur demander, comme elle le dit. Elle le dit, ils sont venus avec leurs lois, leurs idées, en pensant qu'elles étaient mieux que les autres. Ils ont éduqué à la place d'eux, en pensant que ce qu'ils font est meilleur. Elle remet aussi en cause le fait que Christophe Colomb ait découvert l'Amérique, parce que c'est ce qu'on apprend à l'école, alors que les Autochtones vivaient en Amérique avant que les colons ne viennent. Pour elle, en affirmant cela, c'est effacer une part de l'histoire des Indiens. Les Autochtones ont perdu leur culture, leur langue, ils ont été déracinés de leur propre pays. Anne Antane Capesh évoque aussi les relations de la police avec son peuple, et c'est malheureux de constater que cela n'a pas changé en 2021, et puis aussi dans d'autres services comme la santé, avec notamment le décès de Joyce Echaquan. Pour revenir au livre Shuni de Naomi Fontaine, elle parle aussi des lois qui sont mises en place pour les Indiens et les contraintes qui peuvent y avoir s'ils ne se marient pas avec les Indiens, comme les personnes de troisième génération, si elles ne se marient pas avec des Indiens, toutes les exemptions, par exemple, de taxes, d'impôts, les droits de scolarité payés, etc., sont perdues, ou encore qu'un Innu ne peut pas être propriétaire de son terrain s'il habite dans une réserve, car les territoires des réserves appartiennent à l'État. Donc tout ça, ce sont des lois imposées. Lorsque Naomi Fontaine parle de la relation avec son fils, elle lui dit, une fois son fils en rentrant de l'école, il lui dit qu'il veut être blanc. Et sa mère, elle est un peu choquée, mais elle lui raconte qu'elle aussi, quand elle était jeune, elle a eu cette même sensation. Et elle lui répond qu'il ne doit jamais avoir honte de sa couleur de peau. Elle lui dit aussi qu'il rencontrera sans doute des personnes qui ne vont pas l'aimer parce qu'il est différent. Ils pourront se moquer de lui, mais c'est le seul pouvoir qu'ils auront, car cela ne l'empêchera pas d'aller plus loin. Elle explique ce qu'est le complexe d'infériorité, comme par exemple lorsqu'elle se retrouve dans une salle où tout le monde a la peau blanche et elle essaye de trouver des stratégies pour ne pas se sentir inférieure. Elle dit aussi qu'il faut arrêter de classer les Indiens comme... souvent, des personnes classent les Indiens comme l'Indien spirituel, l'Indien civilisé, l'Indien sauvage, l'Indien de misère. Donc, il y a beaucoup de préjugés qui sont faits par rapport aux Autochtones. Donc, il faut commencer à admettre qu'il en existe, mais il faudra du temps, de l'espace et de la connaissance pour s'en libérer. Elle reprend souvent cette expression tout au long du livre où elle dit que la vie est un cercle. Comme lorsqu'il y a des décès dans sa communauté, mais aussi pour évoquer le temps qui passe et qui évolue. Chacun suit son cercle, le déroulement de sa vie, comme les saisons qui se succèdent et qui se ressemblent. Le cercle est différent d'un système linéaire de temps dans lequel la vie est une course de point A, la naissance, au point B, la mort. Entre les deux, il y a les études, la carrière, le couple, la maison, la famille, la retraite. Mais que la vie n'est pas une course. Donc souvent on dit que le peuple autochtone est résilient. C'est ce qu'on utilise pour nommer la force de survivre à la colonisation sauvage dont ont été victimes les Premières Nations. Selon Naomi, la résilience est un processus naturel, alors qu'il n'y a rien de naturel quand une personne reste ouverte à une société pour détruire sa culture. Ce n'est pas, elle dit aussi que ce n'est pas naturel d'écrire dans une langue coloniale. Et puis, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué, et je pense que toutes les minorités ici au Québec y ont fait face, c'est le fait de ne pas être vu, perçu comme un individu unique. Donc, par exemple, Naomi, elle va dire qu'on va l'appeler l'Indienne, l'Inou, l'Autochtone. Si elle tombe, bah, c'est toutes les autres autochtones qu'elle fait tomber avec elle. Alors que si elle se tient debout, elle montrera alors qu'elle est résistante. Lorsque Naomi a été invitée dans une conférence pour faire un discours, elle a dit une phrase qui est très intéressante que je vais vous lire. Si le colonialisme, si les tentatives d'assimilation, si le vol de nos territoires, le vol de nos enfants, si les réserves, si la loi sur les Indiens, si les pensionnats, si le racisme systémique, si la négation de notre culture ne les ont pas tués, eux, ceux qui ont subi toutes ces choses, rien aujourd'hui ne pourra détruire notre culture. Donc c'est vraiment un message positif qu'elle dit et qu'elle lance à tout le monde et surtout aux personnes de la communauté autochtone. Pour ne plus être dépendant de l'État, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de dépendance à l'État, elle dit, ils exigent, quand elle parle de « ils », c'est la communauté, ils exigent de prendre les décisions par eux-mêmes en ce qui concerne les communautés, les territoires, l'économie, la population et l'identité qu'ils demandent au gouvernement de les laisser agir selon ce qu'ils auraient choisi, parce qu'en fait on se rend compte que les gens prennent des décisions à leur place. Donc voilà, ça c'était vraiment les passages super intéressants du livre de Naomi Fontaine. Maintenant, moi je vais vous parler un petit peu de l'actualité. Donc ces derniers temps, je ne vous apprends rien, nous avons tous suivi l'actualité avec la découverte des 215 restes d'enfants enterrés sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique. Ces pensionnats avaient pour objectif de tuer l'Indien dans l'enfant. Environ 150 000 enfants ont été arrachés à leur famille et ont été envoyés dans les pensionnats entre 1870 et 1990. Il y a eu plusieurs formes de violence, des violences physiques, mais aussi sexuelles et aussi des abus. Il y a eu aussi des enfants qui sont morts de faim. Les enfants avaient l'interdiction de parler dans leur langue maternelle et la langue qu'ils devaient utiliser était la langue du colon, c'est-à-dire le français ou l'anglais. On ne peut aujourd'hui dénombrer tous les traumatismes des personnes, tous les traumatismes subis des personnes qui y sont allées. On les appelle même aujourd'hui les survivants des pensionnats. L'État était derrière tout cela. Il voulait que ces enfants soient déconnectés de leur culture. Ça fait partie de l'histoire canadienne et je pense que c'est vraiment important d'en parler. Personnellement, ce qui m'a le plus choqué, c'est que je n'ai vu aucune prise de décision rapide de la part du gouvernement. Heureusement que les réseaux sociaux existent. Ça a pris des jours avant qu'ils ne décident de mettre le drapeau en berne. Et puis maintenant, la question que je pose, c'est quoi la suite par rapport à tout cela? Je rappelle que les excuses du gouvernement concernant les pensionnats se sont faites le 11 juin 2008 et que le dernier pensionnat a fermé ses portes en 1996. Cette année, en 2021, il y a un hashtag « Cancel Canada Day » qui tourne sur Twitter, qui incite les personnes à ne pas célébrer la fête du Canada qui a lieu le 1er juillet, jour du déménagement au Québec. Ce mouvement n'est pas nouveau. Il y a de nombreuses voix autochtones qui appellent les responsables canadiens à repenser la fête du Canada depuis des années. J'ai une pensée à toutes les personnes qui sont passées par ces pensionnats et aussi à toutes les femmes autochtones qui sont portées disparues. Le nombre se situe entre 500 et 1100, mais l'Association des femmes autochtones du Canada sous-estime ce nombre. C'est un autre sujet dont on ne parle pas assez. Je tenais aussi à remercier mon amie Anne-Sophie Trottier pour les références. Donc pour moi, c'est important de faire cette chronique, de parler des livres qui nous ressemblent, mais aussi d'avoir des représentations diverses et variées. Donc moi, j'ai plusieurs questions pour toi. Bye, j'espère que tu as bien écouté. Oui, donc...
Vas-y, si je peux
tu as vérifié ma connaissance de l'histoire autochtone.
Exact.
Parfait, allons-y. Moi, j'aime bien. Hein. Je visite parfois les... En été, j'aime bien aller visiter les... ce qu'on appelle les réserves. Là.
Okay.
Ça me permet de découvrir... Moi, c'est... Enfin, parce que moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des Noirs et je trouve qu'en Amérique du Nord, il y a les autochtones et puis les Noirs, c'est les deux minorités qui ont été historiquement opprimées sur le dos desquelles les Européens ont construit ce sous-continent, ce continent, parce que ça va du nord au sud. Fait que c'est deux histoires parallèles qui se ressemblent. Donc moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire autochtone. Et d'ailleurs, il y a l'historienne Ortiz. J'ai découvert son livre. Elle réécrit l'histoire des États-Unis du point de vue des autochtones.
Ça, c'est
là,
super.
Demain, je vais aller acheter ça à Pantoute pour lire cette belle histoire.
Super.
Bon, alors, je t'écoute. Si je peux passer le test.
Oui, donc en fait, j'ai lu un article dernièrement, mais je suis désolée, j'ai oublié de noter la référence.
Oui.
Qui disait que la plupart des Québécois ne peuvent pas répondre à cette question. Donc, je ne sais pas. Pouvez-vous citer... Ouais. C'est une chronique littéraire, donc. Ouais. Pouvez-vous citer... Peux-tu citer trois auteurs autochtones?
Naomi Fontaine.
Oui.
Madame Obam Sewin.
Ouais.
Ah... Ben, j'en connais, là, mais la maman, là, comment elle s'appelle?
La plupart des Québécois, comme je dis, ne peuvent pas répondre à cette question.
Ben, j'en ai cité deux, quand même.
Oui, ben, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Donc, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est important de connaître l'histoire autochtone et aussi de savoir que, ben, il y a des écrivains et des écrivaines qui écrivent des livres super à propos de leur histoire et de leur communauté. Donc, bah moi, je t'invite à aller lire des livres. Moi, j'ai quelques noms ici qui sont aussi super intéressants, comme Natacha Canapé-Fontaine,
ouais.
Joséphine Bacon.
Bacon, je parlais de Joséphine Bacon, c'est ça. C'est elle qui le nom ne revenait pas. Moi, j'en connais quand même. J'en connais, mais...
Jean Siwi,
ouais.
Et Thomas King. Donc, bah, c'est aussi des références que Naomi Fontaine dit. Donc, moi aussi, j'avais une autre question pour toi, Mbaye.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses? Donc, là, dans l'actualité, j'ai parlé de que le hashtag qui suivait sur Twitter, que des personnes voulaient annuler la fête du Canada. Qu'est-ce que tu penses déjà de la fête, d'annuler la fête du Canada vis-à-vis de tout ce qui s'est passé concernant...
Annuler la fête...
Déjà, à Québec, on ne la fête pas trop, non?
Non, pas tellement, mais il y en a qui en fait quand même. Tu sais qu'il y a beaucoup de fédéralistes, et puis je respecte ça. Je pense qu'il y a des gens qui veulent célébrer ça. Ça dépend du sens qu'on y met. J'ai vu tantôt un article dans l'espace autochtone sur Radio-Canada, d'une communauté autochtone qui demandait, non pas l'annulation formelle, mais réorienter cette fête vers le souvenir, la commémoration des 215 enfants et de tous les passionnants. Je pense que ça fait sens. C'est-à-dire, au lieu d'aller, voilà... manger des gâteaux, machin truc, bah, cette fête-là du 1er juillet de cette année, on devrait la consacrer en souvenir de ces enfants-là, des enfants du pensionnat. Je trouve que ça, c'est intéressant. Sur le plan pratique, c'est vrai qu'il y a des événements qui sont déjà en branle. Tu sais, changer, ça va être très difficile, mais si on peut ajouter une composante, fait que moi, je me dis, au lieu d'annuler la fête du Canada, ce qui va partir un autre débat, là, tu sais, hein, l'appropriation culturelle, racisme systémique, on n'en finira pas. Moi, je me dis, célébrons cette fête-là du 1er juillet, mais en y donnant une connotation autochtone cette année, particulièrement. Tu sais. Mm-hmm. C'est-à-dire, prenons le temps de méditer. Au lieu de célébrer, là, méditons. Tu sais. Commémorons, méditons. Et cette communauté disait, le 1er juillet, ça serait l'occasion de lire le rapport de commission sur les enfants autochtones disparus, etc. Fait que, moi, je pense que c'est ça. Peut-être le 1er juillet, prenons le temps de méditer, de réfléchir, au lieu de célébrer, faire la fête, la joie avec des feux d'artifice. Peut-être que ça, je pense que ça donnerait un sens particulier à cette commémoration. En fait, ce n'est plus une célébration qu'il faut faire, une commémoration le 1er juillet.
Mais c'est ça, mais moi, je pense que c'est dommage que ce soit en 2021. Ben, c'est vrai qu'il y a certaines villes qui en ont pensé, mais tu sais, on est en 2021, ça aurait pu se faire avant, en fait.
C'est vrai, mais il faut parfois aussi que des découvertes comme celui de Kamloops arrive pour nous réveiller de notre torpeur. Malheureusement, c'est ça la réalité. Il faut qu'on tue George Floyd pour qu'on se réveille, alors que ça fait 500 ans qu'on parle des Noirs. Tu sais, les Autochtones parlent aussi depuis 500 ans de ça. Mais il faut que des événements pareils pour ouvrir les yeux des gens. Puis comme tu le dis, là, autant tu le dis sur la littérature, bah sur l'histoire aussi, les gens ne connaissent pas ça. Les gens ne connaissent pas l'histoire autochtone. Les gens ne connaissent pas la littérature autochtone. Donc, il y en a qui ont appris à travers la découverte de 215 corps, là. Tu sais, ils ne savaient même pas grand-chose des pensionnats. Ça existe comme ça, mais ils ne savaient pas. Il y en a qui ignorent même que le Québec était impliqué là-dedans. sais, les religieuses québécoises étaient impliquées dedans. Puis il y en a qui voient, oui, non, c'est pas nous, c'est les religieuses, comme si les religieuses n'étaient pas québécoises. Hein. Mm-hmm. Non, c'est le fédéral. Jusqu'à là, encore aujourd'hui, c'est dur de faire admettre à certains au Québec que le Québec a sa part de responsabilité. On veut toujours tout reporter sur le fédéral. Je trouve que ça, c'est une preuve d'immaturité politique, n'est-ce pas? Il faut accepter que oui, on a notre part de responsabilité, on va y faire face. Personne aujourd'hui n'a tué d'enfants autochtones hier. C'est ça, c'était des choses qui sont faites dans le passé par les ancêtres, par nos ancêtres. Mais nous avons la responsabilité de réparer et de ne plus se laisser se répéter cette discrimination-là. Fait que moi, je trouve que oui, à un moment donné de la vie, il faut accepter que oui, nous avons cette histoire douloureuse. On la regarde en face, on la répare afin d'inventer un autre futur.
Oui, comme tu dis, ça fait partie de l'histoire et c'est important d'en parler. Bah, c'est comme je disais aussi, il y a aussi toutes les femmes qui sont disparues.
Oui.
On n'en parle pas aussi assez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de d'associations féministes qui sont dessus, mais c'est toujours pas. Il y a pas de. Au niveau du gouvernement, en tout cas, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions. Bah, il y a des actions qui sont mises en place, mais pas assez en fait pour pouvoir les retrouver.
Le principe de Joyce.
C'est ça que j'allais dire.
Qu'on voudrait. Bon, je te laisse y aller comme tu. J'ai des vents, je suis dans ta tête aujourd'hui.
C'est ça. Bah, c'est aussi comme je le disais aussi avec Joyce, tout ce qui est racisme systémique, que ce soit avec les policiers, mais aussi avec le système de santé, c'est malheureux en fait que ça arrive encore aujourd'hui, comme je le dis tout le temps, en 2021. Et je posais la question, c'est quoi la suite par rapport à tout cela? Oui, il y a des événements tragiques qui arrivent, mais c'est quoi la suite en fait? Parce que il peut encore y en avoir. Sans qu'il y ait des actions ou des choses qui soient mises en place. Donc, c'est vrai, je te pose la question. Là, peut-être que toi, tu n'as pas la réponse, mais je lance juste l'idée comme
mais
ça.
Mais ça dépend. Je trouve que si on laisse ça aux politiciens, ils vont passer à autre chose. Là. Il y aura une inondation demain, puis ça va focaliser toute leur attention. Les médias vont se jeter là-dessus en pâture. On va oublier ça. Je pense que ça prend une mobilisation collective. Tu sais, c'est comme avec George Floyd. Là. On a tué George Floyd, mais il y avait le Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter qui était là depuis 2013. Qui a donné un relief particulier à la mort de George Floyd. Fait que ça prend une mobilisation collective autour de la question autochtone, n'est-ce pas? On a découvert les 215 enfants, mais il ne faut pas laisser tomber. Il faut que nous tapions sur le principe. On dit non, ce n'est pas normal. Et toi, il faut admettre le principe de Joyce. Là. Tu sais, on a tué Joyce et puis c'est fini. Le gouvernement ne veut pas reconnaître le principe de Joyce en santé. Ce n'est pas normal. Je pense que c'est inimaginable même pour moi. Pourquoi un gouvernement refuserait ça? Ça tombe sous le coup du sens, bon sens. Fait que oui. Puis là, il y en a qui réclament le 21 juin comme fête nationale. Le gouvernement du Québec a refusé. Ben moi, je trouve que ça ne devrait pas seulement être un férié dans une province. Ça devrait être une fête, un férié national, comme le 1er juillet. N'est-ce pas? Fait que moi, je trouve qu'il y a des choses. Tu sais, parfois, c'est choquant. Tu sais. Je trouve 21 juin, là, ça devrait être. Nous sommes tous venus ailleurs, là. Même nous, les Noirs qui étions déportés ici. Là. Nous sommes venus d'ailleurs. Là. Les Européens sont venus d'ailleurs. Okay? On a occupé cette terre. Là. C'est ça la réalité. Personne d'autre, à part les Autochtones, là, n'est né ici. Tu sais, les Européens, comme les Africains, nous sommes tous venus ici, dans des conditions plus ou moins dramatiques. Mais on ne veut même pas reconnaître. Tu sais, la colonisation, c'est ça. Tu prends la terre de l'autre. Tu lui reconnais même tous les symboles. Tu ne veux pas reconnaître ses fêtes. Tu ne veux pas reconnaître ses cultures, son histoire. Je dis, mais ça nous coûte quoi? Oui, ça nous coûte de l'argent. Donner un férié. Mais alors, on a combien de fériés là, pour nous autres? On peut-tu apporter juste ou décréter juste un jour férié, le 21 juin, la fête nationale? Moi, je trouve que ça serait une marque de réconciliation à l'égard des Autochtones. Tout le monde chante réconciliation, réconciliation. Personne ne veut poser un geste concret. Mais si on pouvait juste décréter 21 juin férié à l'échelle du Canada, ça serait déjà une bonne marque de réconciliation, de reconnaissance, etc. À mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses là.
Oui, moi je ne sais pas si un jour férié, ça va changer les conditions de vie des personnes autochtones. Sincèrement, je ne pense pas. Parce que par exemple, là, je ne pense pas. Parce que quand on voit par exemple qu'il y a eu des décès ou des événements tragiques, ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement tragique que par la suite il y a des choses qui se font. Que ça change les choses. Tu vois, je le disais la semaine dernière, quand je parlais de. Pas la semaine dernière, il y a deux semaines, quand je parlais de Noirs sous surveillance et qu'on parlait de George Floyd et puis le mouvement qui a suivi après. Mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe, c'est comme si, en fait, oui, ça s'est passé, mais tu sais, il n'y a rien de concret, en fait, qui est ressorti par
rapport à ça. C'est symbolique, c'est sûr qu'un jour férié, ça change pas quelque chose dans la matérialité, dans la vie matérielle, mais c'est symbolique. Et puis les symboles sont importants dans la vie d'une nation, d'une communauté.
Je comprends, mais.
Je me dis. Au moins, on prend un jour, on se donne des jours fériés, nous autres. Tu sais, Voilà, on a donné un jour férié où il y a des jours pour les Européens, là, les jours de Reine Victoria, machin, machin, truc, n'est-ce pas? Aux États-Unis, on a reconnu le 19 juin. On vient de célébrer jour férié pour l'abolition de l'esclavage.
Oui, ben, justement.
Évidemment, moi, ça ne change pas grand-chose.
Ça ne change pas grand-chose.
Sur le plan symbolique, c'est important quand même. Il faut reconnaître le symbolisme de. Mais je suis d'accord avec toi qu'ensuite, il faut se mobiliser d'abord pour faire la lumière autour de ça, là.
Oui.
Les 215 enfants, il faut se mobiliser autour de ça. Ensuite, parler de la réparation. Tu sais, je trouve qu'il y a un cas, on va en parler tantôt, la poule noire. Le gouvernement fédéral refuse de dédommager les populations autochtones. Il y avait un procès qui a été. Je pense que c'était à la suite de du rapport. Un rapport autochtone, là, j'ai oublié le titre du rapport exact. Mais la Cour avait ordonné qu'on dédommage de 40 000 dollars chaque autochtone. Le gouvernement fédéral s'est opposé. Je pense qu'on aurait dû accepter ça. Ce sont ces gestes qu'il faut poser, n'est-ce pas? Il y a plein d'autres. L'enseignement de l'histoire des autochtones, la question des eaux, les eaux potables dans les réserves. Encore
exact.
Aujourd'hui, il y a des réserves qui n'ont pas d'eau potable.
En 2021, n'est-ce pas? Au Canada.
La violence contre les femmes autochtones, tu sais? Les autochtones qui sont très nombreux en prison, comme les Noirs.
Oui,
la justice raciale.
Ben c'est ça, en fait. Je ne sais plus les statistiques, mais je sais qu'ils représentent plus de 30%.
Oui, dans les prisons.
Dans les prisons, alors qu'au niveau de la population, malheureusement, j'ai oublié les statistiques. Mais...
Donc, je trouve que oui, il y a le côté matériel, il y a le côté symbolique aussi à faire. Fait que c'est un débat qui est ouvert. Puis là, actuellement, il y a la ville de Victoria qui a décrété, qui a annulé la fête du 1er juillet. Il y a quelques villes qui le font.
Oui,
Québec,
je n'ai
pas de nouvelles. Mais bon.
Il y a trois villes.
Je pense tant mieux si les consciences s'éveillent. Le plus important, c'est qu'elle ne se rendorme pas. Pour qu'elle ne se rendorme pas, il faut qu'on se mobilise. Il faut que nous nous mobilisions. N'est-ce pas?
Comme je dis, la lutte n'est pas finie.
Alors oui, donc l'une des manières de faire, c'est d'aller écouter, découvrir les 11 nations autochtones du Québec lors de l'événement Koué qui se déroule à Place Béliveau jusqu'au 4 juillet. Oumou?
Oui, c'est fini.
Merci beaucoup. Et c'est ta dernière chronique de la saison.
Oui, ma dernière chronique de la saison. Donc, je vais beaucoup lire cet été, me reposer et revenir. J'ai déjà des sujets super intéressants à la rentrée.
Parfait.
Je ne sais pas si je peux te donner l'idée maintenant. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur l'histoire Camara. Tu sais, la personne qui a été...
celui de Montréal, là,
ouais.
Celui que la police a injustement arrêté, emprisonné
pendant 6 jours. Profilage racial, ouais.
Il vient d'avoir deux enfants, sa femme a accouché de jumeaux. Là.
C'est ça. Et ben, il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur lui.
Ah ouais, déjà?
Ouais.
Okay.
Et ben, à la rentrée, je sais pas si on va commencer par ça, mais
tu peux inviter l'auteur en question.
Oui, bah oui, je vais l'inviter.
Parfait. Alors, je te souhaite de belles vacances.
Merci.
Puis on se retrouve en septembre.
Parfait. C'est
merci
ça.
De ta collaboration durant cette saison.
Merci, ça fait
salut.
Plaisir.
Salut. Mesdames et messieurs, nous allons une petite pause et puis au retour, je reçois Madame Betty pour parler du recours collectif contre le gouvernement fédéral en raison du racisme systémique au sein de la fonction publique.
Écoutez le magazine Dignité Noire avec Mbaye Adji, Mbaye Riway.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Nous sommes le 21 juin 2021. C'est la fête nationale des autochtones. Alors, il y a un événement, il y a un concert en ligne aujourd'hui sur à Radio-Canada. Puis, il y a l'événement Koué qui se déroule à Place Béliveau à Québec jusqu'au 4 juillet. Alors, en seconde partie de cette émission, j'aimerais parler d'une affaire aussi tout aussi importante. J'ai intitulé cette partie « Quand les babines ne suivent pas les bottines, le racisme systémique au sein de la fonction publique fédérale malgré les beaux discours du Premier ministre Justin Trudeau ». Alors, juste en guise d'introduction, en décembre 2020, un recours collectif est intenté contre le gouvernement du Canada par des fonctionnaires noirs affirmant être victimes de pratiques d'embauche et de promotions discriminatoires. Ils sont maintenant 800 fonctionnaires, noire a intenté une action collective de 2,5 milliards de dollars contre le gouvernement fédéral. Le 26 mai dernier, Radio-Canada nous apprenait que des fonctionnaires noirs du gouvernement fédéral qui dénoncent le racisme sont bâillonnés. Oui, vous m'écoutez bien, des fonctionnaires au sein du gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui dénoncent le racisme systémique sont bâillonnés par le même gouvernement canadien qui leur verse des milliers de dollars à des plaignantes, à ces plaignantes-là, en échange de leur silence, au lieu d'éliminer le racisme systémique au sein de la fonction publique. Donc, je vous rappelle juste, là, quand on parle de racisme, là, parfois c'est théorique, c'est un concept théorique. Je vais vous rappeler, là, je vous cite un cas, hein, un cas de discrimination au travail rapporté par Radio-Canada. Alors, un individu blanc pensait qu'il serait drôle d'afficher la photo d'un singe avec le nom d'un employé noir dans la cuisine partagée au travail. Donc, on est sur un lieu de travail, un employé blanc pense qu'il serait drôle d'afficher la photo d'un singe avec le nom de son collègue noir, n'est-ce pas, dans la cuisine. Le collègue noir s'est plaint à la direction et la direction lui a répondu qu'il n'avait pas le droit d'enlever les images. Hein, l'image qui le représente avec le singe, là, qu'il n'avait pas le droit d'enlever cette image, qu'il aurait d'abord dû l'aviser. Donc, cette équipe de gestion appuie ces actes racistes. Voilà ça. Ça, c'est une manifestation concrète de ce qu'on dénonce au sein du gouvernement fédéral, pas n'importe où. Le gouvernement fédéral du Canada, à la tête duquel se trouve le Justin Trudeau, qui se montre partout le champion de la diversité et de l'inclusion. Alors, Dignité Noire fait le point ce soir sur ce recours-là avec Madame Bernadette Betty, l'une des 12 co-porte-parole de ce recours collectif. Bonsoir, Madame Betty.
Bonsoir.
Alors, pour vous présenter, vous êtes de Québec, hein, vous êtes originaire de Québec. Maintenant, vous résidez à Ottawa. Mais vous détenez un baccalauréat en communication et une maîtrise en études sur les femmes et l'étude de genre. Vous êtes actuellement candidate au doctorat en philosophie féministe et en études de genre à l'Université d'Ottawa. Vous avez travaillé au cabinet du Premier ministre du Canada, à la Commission canadienne des droits de la personne, et vous êtes actuellement professeur en communication et droits de la personne à Algonquin College à Ottawa. Vous êtes fondatrice et présidente du groupe Sankofa Consultant, une entreprise de services conseil en diversité, équité et inclusion. Nous vous recevons donc aujourd'hui, je l'annonçais tantôt, en tant que l'une des 12 porte-parole du recours collectif. Commençons par le début, là. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à introduire ce recours collectif contre le gouvernement canadien? Est-ce parce que vous avez essayé d'autres recours, ça n'a pas marché, que vous vous êtes résolu à faire ce recours?
Écoutez, je vais commencer d'abord par souligner justement la journée nationale des peuples autochtones. Donc, je vous remercie d'avoir commencé de cette façon. Puis, moi, je vous parle ici à Ottawa, sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. Donc, je tenais vraiment à commencer de cette façon. Et puis, pour aller de l'avant avec le recours collectif, alors oui, c'est, vous savez, ce recours collectif, nous reculons à peu près 50 ans en arrière, donc depuis les années 1970. On inclut les fonctionnaires, fonctionnaires noirs qui étaient à la fonction publique depuis ces années-là jusqu'à présent. Alors, vous douterez que depuis ces années-là, certaines choses ont été tentées pour justement combattre le racisme systémique que nous vivons au sein de la fonction publique. Je sais aussi, parce que je fais partie de certains d'un grief, que des individus, des employés noirs au fédéral ont essayé eux-mêmes, ont tenté de commencer des griefs dans leur département, le département dans lequel ils travaillent. Certains griefs se menaient à terme et d'autres se sont arrêtés en cours de chemin. Il faut savoir que le processus pour entamer un grief est très, très long, très difficile aussi. Et parfois, les gens vont se décourager à mi-chemin, justement, parce que à faute de, les gens vont pas nous croire sur ce qu'on dit ou la période de temps que ça prend justement pour terminer un grief qui est très lourde physiquement et psychologiquement pour les gens. Alors pour répondre à votre question, oui, il y a des griefs qui sont tentés toutes les années, plusieurs, mais
ça n'a pas eu de solution dans le fond.
Non, en fait, certains ont des solutions. Vous avez parlé de certains fonctionnaires qui sont bâillonnés. Mm-hmm. Vous voyez, ça, c'est un autre problème. C'est que parfois, les départements veulent se cacher, veulent pas régler le vrai problème. Alors, la façon qu'ils vont régler le problème, c'est qu'ils vont payer les gens pour se taire et non pour régler les problèmes. Alors, il y a vraiment un problème, une problématique là, déjà à la base dans ce système de griefs-là, pour mm-hmm. commencer, qui devrait aussi être... on devrait aussi regarder le problème dans le processus de grief. Oui.
Parfait. Donc là, votre recours collectif couvre les 50 dernières années, donc tous les fonctionnaires noirs de la fonction publique depuis les 50 dernières années. Dans les médias, on a appris que...
Depuis 1950.
Depuis 1950, je veux dire, donc 70 ans dans le fond. Alors, dans les médias, on a appris que l'action collective vise 2,5 milliards de dollars contre le gouvernement fédéral. Est-ce que c'est votre principale revendication ou y a-t-il d'autres revendications de type systémique que vous demandez aussi?
Ah, tout à fait. Il y a un plan détaillé avec toutes les demandes que l'on fait au fédéral.
Par exemple?
Alors, oui, il y a le 2,5 milliards, mais il y a aussi le processus d'embauche. Il faut reviser le processus d'embauche. Il faut avoir plus de représentation à tous les niveaux, dans les niveaux d'emploi, donc du côté administratif jusqu'aux positions de gestionnaire et de directeur. On demande aussi, faut avoir des dédommagements non seulement financiers, mais aussi faut regarder les répercussions que ce racisme systémique-là ont créé chez les gens au niveau psychologique. Donc, il y a plusieurs étapes à cette demande. Oui,
c'est vrai. Hein. Il y en a qui souffrent d'anxiété, la hausse de pression, les palpitations cardiaques,
exactement,
les problèmes de sommeil, les attaques de panique. Il y en a tellement. Là, le Radio-Canada en a parlé. Là, dans la fonction publique, là, vous avez fait votre recours. Comment se manifeste la discrimination anti-noire dans la fonction publique, là, selon les cas qu'on vous a rapportés, là? Bon, j'en ai vu quelques-uns là dans les médias. J'ai lu un peu là-dessus, mais pouvez-vous en parler un peu? Est-ce que vous pouvez en parler un peu à nos auditeurs, auditrices, là? Comment ça se manifeste, là, au travail, là?
Ben, en fait, vous avez commencé avec un très bon exemple tout à l'heure, l'exemple de l'image de singe au travail.
Oui.
Alors, ça y va de cette façon-là, très ouvertement. Il y a aussi des micro-agressions, où est-ce que la façon où les mots qui vont être dirigés vers les employés noirs. On retrouve aussi, justement, je vous parlais tout à l'heure d'embauche, donc... les gens vont souvent dire oui, mais on voit des employés noirs au fédéral. OK. Alors maintenant, est-ce que si on regardait le pourcentage d'employés qui sont engagés dans la globalité, dans l'ensemble de tous les employés de la fonction publique, on voit qu'on est en très grande minorité.
Est-ce qu'on a des données là sur le nombre des employés noirs de la fonction publique?
Ben, en fait, depuis les statistiques sont sorties en 2019, en mars 2019, on dit que il y a 6468, donc un peu en haut de 6000 personnes qui s'identifient en tant que noires à la fonction publique. Puis ce 6000-là rentre dans l'ensemble de plus de 300 000 employés en totalité.
Wow, ça,
à la
c'est une goutte d'eau dans la mare, ça. 300 000,
exactement.
Il n'y a que 6 000 noirs.
Exactement. Et puis, aussi pour revenir tout à l'heure à votre question, c'est important de voir aussi la façon dans laquelle ils nous engagent. Alors, si ils décident de nous engager, souvent ils vont nous engager, puis après, les employés vont rester dans les mêmes positions, même s'ils sont qualifiés pour monter sur l'échelle, dans l'échelon, par exemple, ils restent souvent au même niveau pendant des années, même parfois à terminer leur carrière au niveau où est-ce qu'ils ont été engagés. Alors, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est vraiment ça qu'on remarque dans les façons que le racisme systémique se manifeste au sein de la fonction publique.
Est-ce qu'on a une idée de... la répartition des secteurs dans la fonction publique où le racisme est plus criant? Est-ce que vous avez ces données-là, selon les départements et les ministères?
Oui, en fait, je vous dirais que venant des employés qui se sont joints à la au recours collectif, on remarque vraiment que c'est à travers la fonction publique. Maintenant, ce qui est aussi important de dire, puis je vous remercie de m'avoir ce soir à votre émission, c'est que le recours collectif, on est en train, de plus en plus de personnes sont en train d'en entendre parler et se joignent à nous, mais c'est important de continuer justement à en parler pour que le plus de gens puissent justement entendre parler de ce recours collectif-là et si eux-mêmes ont vécu le racisme systémique au sein de leur travail, qu'ils puissent se joindre à nous. Mm-hmm. Alors, je crois pas qu'en ce moment, les 800 personnes qui se sont joints aux 12 représentants initiaux, les gens qui ont commencé le recours collectif, je crois pas que c'est représentatif encore de toutes les personnes qui sont en train de souffrir présentement à la fonction publique.
Ben, c'est important oui. Justement, moi, j'avais lu l'article de Radio-Canada du 26 mai, là, donc les gens en avaient parlé, et puis là, ça commence à tomber dans l'oubli, fait que nous, on s'est dit, on va en reparler, parce que c'est bon, il faut expliquer le recours collectif aux gens, là. Si vous pouvez en dire deux, trois mots, l'expliquer, c'est-à-dire que les gens peuvent toujours s'inscrire, hein, se rejoindre ce collectif-là. Pouvez-vous expliquer un peu ça, là, à nos auditeurs, là, comment ça se passe? Comment on peut vous joindre? Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Tu sais, d'autres fonctionnaires fédéraux peuvent encore se joindre au recours, là.
Tout à fait. On invite les gens, si vous vous retrouvez dans les histoires que vous entendez depuis le début de cette entrevue, si vous-même vous souffrez, si vous-même êtes victime de racisme systémique au sein de votre travail à la fonction publique, vous pouvez vous joindre à nous dans ce recours collectif-là. Alors, si vous allez à blackcrossaction.ca, vous avez une partie, vous avez une section sur le site internet où vous pouvez aller vous joindre au recours collectif de façon confidentielle. Alors, c'est important de le dire. C'est important parce que plusieurs craignent les représailles. Plusieurs craignent d'aller de l'avant justement parce qu'ils se disent qu'est-ce qui arrive si mon employeur apprend que j'ai joint le recours collectif, puis est-ce que je peux perdre mon emploi? Alors, sachez, puis vous êtes je vous confirme que vous pouvez joindre lorsque vous joignez le recours collectif, tout est fait de façon confidentielle. Et puis vous vous joignez, c'est gratuit, c'est seulement d'aller ajouter votre nom, pose quelques questions pour pouvoir vous joindre. Et c'est ça, allez sur le site internet, je répète, Black, donc B-L-A-C-K, Action, Black Class. C'est L-A-S-S, Action, A-C-T-I-O-N.ca. Okay. Alors, vous vous joignez de cette façon-là au recours collectif. Enfin, on va s'assurer de continuer à lutter, justement, pour notre place, puis aussi pour qu'on commence à nous humaniser au sein de la fonction publique.
Je vais demander à Brice, s'il le peut, là, de mettre le site internet du recours collectif, la blackclassaction.ca, en bas de cette entrevue. Fait que si vous travaillez à la fonction publique fédérale, vous êtes une personne noire qui avait vécu le racisme, vous pouvez vous joindre à ce recours collectif. Si vous connaissez des personnes qui travaillent au gouvernement fédéral, qui sont des personnes noires qui ont souffert du racisme, invitez-les à aller sur blackclassaction.ca pour se joindre à ce recours collectif. L'idéal serait que, les 6000 fonctionnaires noirs actuels du gouvernement fédéral puissent se joindre à cette action-là. Moi, ça m'a surpris que vous me dites qu'il y a 6 000 noirs seulement sur 300 000 employés. Déjà, là, il y a un problème. Oui. Là. Quand on voit déjà la proportion, là, il y a un problème déjà. Là.
Exactement. Puis c'est quelque chose d'autre qu'on demande justement dans ce plan d'action, c'est de pouvoir engager justement le talent, tous ces gens, ces individus noirs qui viennent justement postuler pour de nombreux postes à la fonction publique. Donc, on demande 3,5%. Donc, la façon qu'on a calculé, c'est en fonction justement de la population qui travaille à la fonction publique. Ouais. Et pour avoir justement une répartition égale à travers la fonction publique. Donc, on le demande aussi dans notre plan d'action pour ce recours collectif.
Rappelons qu'il y a environ 1,5 à 2 millions de Noirs au Canada. Puis ce n'est même pas en proportion de notre poids dans la population, là, les 6 000. Fait que ça, c'est déjà un signe d'iniquité raciale. Est-ce que, c'est ça. Là, on a annoncé votre recours collectif. Quelle est la réceptivité au niveau des fonctionnaires noirs du fédéral? Est-ce que, on en a évoqué un peu là, est-ce que les gens, le rythme d'association, est-ce que les gens s'associent vite ou c'est lent? Est-ce que les gens ont peur? Comment ça se passe là? Vous l'avez lancé depuis décembre là. Est-ce que il y a des craintes pour se joindre ou est-ce que le rythme est bon? Est-ce que les gens s'inscrivent vite?
Les gens s'inscrivent lorsqu'ils entendent parler du recours collectif et puis justement qu'on les rassure sur la confidentialité, parce que c'est souvent ça le problème. Les gens ont peur des représailles. Alors lorsqu'ils entendent parler du recours collectif et qu'on les rassure justement sur cette confidentialité-là et qu'on les rassure sur les prochaines étapes, les gens s'inscrivent immédiatement. Je ne crois pas avoir rencontré un seul noir qui a travaillé à la fonction publique qui n'a pas vécu d'une façon ou d'une autre ce racisme systémique dont on évoque depuis le début. Alors oui. Puis c'est pour ça aussi que on a besoin de continuer à en parler parce que il faut rejoindre tous ces fonctionnaires à travers le Canada.
Mm-hmm,
c'est ça qui est important aussi.
Quelle est la réaction des autorités administratives et politiques là? Il paraît qu'ils n'ont pas encore reconnu ça. J'ai vu quelque part là. Comment ils ont réagi? Comment ils ont pris ça?
Non, en fait, c'est tout le contraire. Nous, il faut aussi voir les progrès où est-ce qu'ils sont. Alors, c'est quelque chose qu'au sein de recours collectif, on est très, on trouve important de reconnaître que justement le gouvernement de actuel de Monsieur Trudeau reconnaît le racisme systémique et on voit déjà certains processus en branle pour aider justement à combattre ce racisme systémique-là. Puis, je vous entendais aussi parler au début de l'entrevue, puis j'aimerais revenir sur vos propos. Il faut se dire, écoutez, on retourne jusqu'à 1950. M. Trudeau n'était pas en fonction en 1950. Mmh. Alors, il faut se dire que c'est pas sur son gouvernement à lui qui arrive, c'est que le recours collectif se passe en ce moment, à un moment où il est en train de gouverner le pays, mais ce n'est pas un problème qui commence depuis son gouvernement. Ce problème est systémique depuis déjà très longtemps. Et quelque chose qu'il a fait, que son gouvernement a fait et que d'autres n'ont pas fait, c'est de reconnaître qu'il y a un problème au sein de la fonction publique, que le racisme systémique existe et qu'il faut justement combattre ce racisme systémique-là. Et ils sont prêts à s'asseoir et à trouver un plan d'action justement pour combattre ce que d'autres gouvernements n'ont pas nécessairement fait.
Mais avant vous, on parlait de reconnaissance symbolique hein, sur la question des Autochtones. Là. Oui, on admet que sur le plan des verbes et puis de quelques actions assez marginales, oui, il y a des aides. Je pense qu'il y a un fonds d'aide à l'entrepreneuriat qui a été mis sur place. Il y a la reconnaissance théorique ou verbale des choses. Mais je veux dire, si on, non seulement le cas du Canada, hein, si on examine d'autres gouvernements, ce que Trudeau est en train de faire, ça a été fait ailleurs. Puis la situation des Noirs n'a pas tellement changé que ça. Ça a été fait aux États-Unis. Les États-Unis en ont fait plus que ça. Au Brésil, ça a été fait. En Europe, ça a été fait. Fait que ce que Trudeau est en train de faire, c'est un rattrapage. Que le Canada est en train de faire, c'est un rattrapage. Mais je doute que ça donne des suites systémiques. Et d' ailleurs, les témoignages rapportés par Radio-Canada en mai, ça se passe cette année-là. Tu sais, je suis convaincu, je suis d'accord que le changement est lent, mais je trouve toujours un décalage. Moi, ce que je critique, c'est le décalage énorme entre ce que les gouvernements disent et ce qu'on voit sur le terrain concrètement. Tu sais, fait que oui, moi j'admets que Trudeau, oui, il a la volonté, n'est-ce pas? C'est comme dans le domaine du féminisme, hein, il a la volonté de lutter contre les femmes, mais bon, beaucoup de féministes aujourd'hui trouvent que ce n'est que de la parole, là. Fait que moi, je me dis, quand je vais voir concrètement qu'il n'y a plus de cas de racisme au sein du gouvernement fédéral, là, j'applaudirai. N'est-ce pas? Fait que je demeure toujours critique, mais je lui reconnais ça. Je reconnais que, tu sais, par rapport au gouvernement passé, il est allé sur certains points un peu plus loin. C'est bien. On va le pousser à aller un peu plus loin. J'aimerais... Oui, allez-y. Mais après, j'aimerais aborder le cas des syndicats. Là. Ça aussi, c'est un cas à dénoncer. Là.
Tout à fait. Puis, seulement avant d'aller à ce point, j'aimerais vous dire, écoutez, Je suis une féministe et j'amène une pensée critique à tout ce que j'entends. Alors, je comprends ce que vous dites. Comme je vous dis tout à l'heure, comme je vous disais, lorsqu'on nomme maintenant que ce racisme est systémique, les changements ne se font pas malheureusement immédiatement. Les changements peuvent être longs. Sauf que il faut rappeler à l'ordre, il faut... Lorsque le gouvernement, lorsque le gouvernement déjà reconnaît, maintenant, il faut s'assurer que les gens puissent rappeler que vous avez reconnu. Maintenant, il faut avoir pour mener des actions concrètes, exactement.
Parfait.
Puis de ne jamais, de pas laisser justement ces actions-là aller,
oui.
De toujours revenir. Et de toujours rappeler qu'il faut avoir des actions
critiques. Et ce, quel que soit le gouvernement. Je pense qu'il faut, quel que soit le gouvernement,
exactement.
Il faut toujours critiquer.
Exactement.
Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on aborde le cas des syndicats.
Oui.
L'ambivalence des syndicats qui, parfois, sont eux-mêmes racistes. Les syndicats
exactement.
Ne font pas grand-chose.
Exactement, qui contribuent. Parfois, contribuent.
Oui, développez un peu là. Qu'est-ce qui se passe avec les syndicats au fédéral? Ils sont pas réceptifs à vos demandes?
Écoutez, non, je vous dirais que nous avons eu l'appui de certains grands syndicats au fédéral, puis on les en remercie d'ailleurs.
Okay.
Par contre, je vous dirais que plusieurs victimes ce qu'ils nous partagent, c'est que, écoutez, j'ai vécu telle expérience, puis la première chose que j'ai fait, j'ai contacté mon syndicat, puis eux, ils ont même renforcé, ils ont même continué empirer la situation. Alors,
dans quel sens? Ils se sont assis dessus?
Soit qu'ils s'assisent dessus, soit qu'ils commencent à poser des questions qui font en sorte vraiment que... qui font en sorte que la personne même se remet en question sur ce qu'elle a vécu. Donc, beaucoup de personnes, après avoir contacté les syndicats, ne poursuivent pas leur grief, justement. Parce que plusieurs personnes qui travaillent au sein du syndicat ont eux-mêmes souvent des biais inconscients, ont eux-mêmes perpétuent justement ce racisme systémique-là. Alors, ce que j'aimerais ajouter pour terminer sur ce point, c'est qu'il y a un travail aussi à faire au niveau des syndicats.
Ouais.
Les syndicats ne peuvent pas s'échapper de ce plan d'action pour combattre le racisme systémique parce qu'il y a beaucoup de personnes au sein de ces syndicats-là qui justement viennent continuer et perpétuer ce racisme systémique dont nous sommes victimes en tant qu'employés au fédéral noir.
Dans l'article de Radio-Canada du 26 mai, là, on vous citait d'ailleurs dans cet article-là, vous disiez que même au niveau de la Commission de la protection des droits de la personne, les employés qui reçoivent les demandes de plaintes, ils ne connaissent pas comment traiter ces demandes ou sont dans le déni même là. Donc c'est la même chose au niveau des syndicats aussi. Donc le problème est tellement profond là, même quand on introduit, d'abord les recours sont longs ou parfois les recours ne sont pas faciles, mais les personnes qui traitent même les demandes ignorent la dynamique, ils ne connaissent pas l'objet de la plainte, ils ne connaissent pas le racisme systémique ou sont dans le déni là. Ce que vous venez de dire pour les syndicats aussi, c'est très malheureux. Mais alors, nous on va en parler. Je pense que c'est un recours collectif, donc ça dure longtemps. Ça dure jusqu'à quand, par exemple? Est-ce qu'il y a une échéance pour ça?
Ah, écoutez, ça peut être très long. Je ne pourrais même pas vous dire la longueur du recours collectif. Ça peut durer des années. On espère que ce ne sera pas le cas, mais ça peut durer quand même des années, oui.
Donc, souvent, c'est les gens vont continuer à s'inscrire. Là. C'est Black Action, blackclassaction.ca. On a le site internet en bas de l'entrevue. Brice vient de mettre ça. On invite tous les gens qui travaillent au gouvernement fédéral, les personnes noires qui travaillent au gouvernement fédéral, ou si vous connaissez les personnes noires qui travaillent au gouvernement fédéral, d'aller en bas de cette entrevue-là sur le site blackclassaction.ca. Puis vous allez vous inscrire de manière confidentielle, hein, c'est garanti la confidentialité.
Exactement.
Vous n'aurez aucun risque de représailles de votre employeur, de votre supérieur au gouvernement fédéral. Donc on vous encourage à le faire parce que c'est en parlant que les choses vont changer. Et j'aimerais citer d'ailleurs, j'aimerais faire une citation là d'une dame, c'est Madame Mariama Abboul qu'on a citée dans l'article en question. Elle dit, elle invite les victimes à verbaliser ce qu'elles vivent pour éviter les problèmes de santé mentale, mais aussi pour provoquer un changement. Elle dit, n'ayez plus peur, sortez, venez dénoncer, pour peut-être que la graine qu'on est en train de s'aimer va germer et produire des fruits dont nos enfants pourront bénéficier. J'ai beaucoup aimé cette citation que je voulais la partager pour terminer cette belle entrevue. Alors, je rappelle que j'étais avec Madame Bernadette Betty, l'une des co-porte-parole du recours collectif des employés noirs du gouvernement fédéral contre, le gouvernement fédéral juste dans le fond. Donc, le recours collectif, voici le site internet blackclassaction.ca. Tous ceux qui travaillent au gouvernement fédéral peuvent s'y joindre. Merci beaucoup, Madame Béchy, et puis bonne chance pour votre recours. Peut-être qu'on pourrait encore s'en parler de plus en plus pour que les gens en entendent parler.
Au plaisir, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.
The following is a previously broadcast program.
You're listening to archival content from CKUT 90.3 FM's Time Capsule. Check out ckuttimecapsule.wordpress.com for more.
Good evening and welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM or ckut.ca on the web. This is the special Perversité edition of our show. It is Monday, August 10th. About 25 years ago, on July 16th, 1990, a mostly queer after-hours party called Sex Garage, which was held in the old port of Montreal, was raided by police. The raid involved intense and homophobic police violence and a number of arrests. The reaction to these raids, which included a kissing and a number of protests and demonstrations, would lead to a new relationship between queer people and the public, as well as the formation of the now no longer existent Diversité, Montreal's first LGBTQ Pride Festival. Tonight, we'll hear from QueerCore alumni Poilo Deer and photographer Linda Don Hammond, whose photos were instrumental in holding the police accountable for their violence and publicizing the events that happened that night. So don't touch that dial. This is QueerCore on CKUT 90.3 FM or ckut.ca on the web. And we're going to start by putting you back in the vibe of those Sex Garage parties with The Boy Who Couldn't Keep His Clothes On, the Banji Girlfriend Beats remix by the Pet Shop Boys. Stay tuned.